Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous reprenons nos méditations sur la vie de Joseph, un personnage important dans l'Ancien Testament qui apparaît dans le livre de la Genèse.
Pour nous accompagner dans nos réflexions, Flavien, qui est ancien d'une église située dans le sud de la France, vient nous retrouver.
Mais d'abord, Yann va introduire le thème d'aujourd'hui.
Nous poursuivons nos discussions sur la vie de Joseph. Nous savons qu'il vécut des épreuves et des injustices l'une après l'autre. Oh, Dieu avait un plan pour Joseph. Il avait décidé d'en faire un grand chef et toutes ses souffrances le préparaient à cette tâche. Nous arrivons au moment dans le récit de sa vie où Joseph fut appelé à se présenter devant le roi d'Égypte pour lui donner la signification de ses rêves. Chacun de ses rêves parlait d'une période de 2 fois cette année. Flavien, pouvez-vous nous expliquer cela?
Oui, bien sûr. Et d'abord, bonjour Yann et bonjour à tous. Voilà donc l'interprétation de ses rêves. D'abord, selon ce que Dieu révéla à Joseph, il y aura 7 années de grande abondance, auxquelles se succèdent 7 années de famine. Or, la famine allait se révéler extrêmement sévère. Ensuite, Joseph dévoila à Pharaon pourquoi il avait eu 2 rêves au lieu d'un seul, sur le même événement. Yann, s'il vous plaît, pourriez-vous nous lire Genèse, chapitre 41, verset 32 ?
Oui, le voici. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter.
Dieu voulait ainsi souligner le fait que ces choses allaient réellement se passer, et cela sans tarder.
Mais quel conseil Joseph donna-t-il à Pharaon?
Suite à ce que le Seigneur venait de révéler, Joseph encouragea Pharaon à agir vite. Et il lui indiqua aussi les démarches à entreprendre pour sauver la nation pendant les années de famine à venir. Il fallait engager quelqu'un pour se charger de tout le pays d'Égypte. Cette responsabilité était énorme, et par conséquent, ce travail exigeait une personne sage, intègre et avisée.
Oui, je comprends que ce n'est pas un travail que n'importe quel homme peut exercer, tant cette responsabilité est lourde.
Oui, Joseph conseilla que des officiers soient désignés dans tout le pays pour stocker 1/5 de toute la récolte amassée pendant les 7 années d'abondance. Ces stocks devaient être entreposés au cœur des cités. Pharaon devait donner son assentissement pour que toute la nation en comprenne le caractère officiel et essentiel, afin que chacun obéisse. Ceci dans le but d'éviter les conséquences terribles de la famine qui allait sévir dans le pays. La récolte engrangée de cette manière serait donc disponible quand la famine frapperait, préservant le pays de la ruine. La sagesse que Joseph démontra par ses conseils prouve bien qu'il avait continué à cultiver ses facultés d'intelligence et de jugement même en prison.
Il est vrai que son esprit est resté vif. Aussi, il est évident que Dieu lui accorde une grande sagesse.
Le fait d'avoir eu la responsabilité des autres prisonniers lui a appris le sens de l'organisation, au point qu'il peut immédiatement indiquer à Pharaon comment agir dans la circonstance. Il faut bien dire ici que sa démarche est incroyablement courageuse. Les prisonniers, et encore moins les esclaves prisonniers, n'étaient pas censés donner leur avis sur l'organisation d'un pays dans lequel ils se trouvaient. Quiconque dépassait les limites de son rôle encourait l'exécution. Beaucoup ont perdu leur vie pour bien moins que ça. Mais Joseph réalisa que des centaines de milliers de vies étaient en jeu, y compris celle de Pharaon. C'est pourquoi il donna la solution de Dieu avec courage.
Et que pouvons-nous donc apprendre de l'attitude de Joseph ici?
Eh bien, l'exemple de Joseph est une source d'encouragement pour nous quand nous parlons de Dieu aux autres, pour les persuader de leur besoin d'un sauveur avant qu'il ne soit trop tard. De plus, Joseph ne se met pas en avant dans cette situation. Il aurait pu suggérer à Pharaon de le choisir, lui, pour cette tâche. Mais au contraire, il ne fait que se tenir humblement devant le roi sans essayer de manipuler la situation en sa faveur. Voilà un homme qui a compris que sa vie est entre les mains du Seigneur. Il n'exprime aucune soif de pouvoir, ni aucune ambition personnelle. Il a compris l'humilité et il est satisfait de laisser Dieu dévoiler sa volonté.
Quel exemple pour nous! Mais comment Pharaon a-t-il réagi au conseil de Joseph?
En écoutant les paroles de Joseph, Pharaon et ses officiers se mirent d'accord à l'unanimité pour approuver les bons plans qu'il proposa. Il est encourageant de souligner qu'en cela, le Pharaon se soucia de son peuple et qu'il ne méprisa pas les conseils et les instructions de Joseph. Il s'employa à mettre aussitôt en pratique ce qu'il entendit de la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que la vie de Joseph changea du tout au tout.
Et que se passe-t-il?
Eh bien, Pharaon réalise qu'il ne connaît personne à la hauteur de Joseph. Joseph était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur œuvre de sorte que Pharaon, un roi païen, reconnaisse que Dieu était avec Joseph. C'est pourquoi Pharaon déclare « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul s'élèvera au-dessus de toi. » Joseph est donc rapidement monté dans l'estime de Pharaon. Il va maintenant être honoré par tout le pays et il va devenir la main droite de Pharaon. C'était totalement inattendu. Ce matin-là, quand Joseph se réveilla, absolument rien ne lui permit de penser qu'il allait devenir premier ministre d'Égypte. Cette idée ne pouvait même pas l'avoir effleurée.
C'est vrai, ce subi renversement de situation est absolument incroyable.
Absolument. Tout au long de ces interminables années d'adversité, Joseph prouve sa fidélité au Seigneur. Les signes d'orgueil qu'il a démontrés dans sa jeunesse, quand, par exemple, il avait relaté son rêve à ses frères et à son père, ont maintenant disparu depuis bien longtemps. Joseph a appris l'humilité et la persévérance sous les traitements épouvantables que tour à tour sa famille, la femme de son maître et les chansons lui ont fait subir. Il a développé une confiance immense en son Seigneur Dieu et il désire le servir et lui donner la gloire en tout et devant tous, même devant l'homme le plus élevé d'Égypte. Nous avons vu l'intégrité de Joseph aussi bien dans la maison de Potiphar que dans la prison du roi. Voilà un homme dont la vie fut passée au crible de la souffrance et qui est resté fidèle à Dieu, alors que tant d'autres en auraient conclu que Dieu les avait laissés tomber. Et maintenant, le moment du Seigneur est arrivé pour l'utiliser d'une façon puissante pour sauver d'innombrables vies. Les voies de Dieu sont beaucoup plus élevées que nos voies et ses pensées sont au-dessus des nôtres. Tout au long de ces 13 années, Joseph souffrit. Mais à travers toutes ces épreuves, il apprit l'obéissance à Dieu. Il apprit à lui faire confiance. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dès à présent lui confier la plus grande des tâches de sa vie.
Merci Flavien. Il est vrai que les diverses épreuves qui peuvent nous accabler suscitent de nombreuses interrogations. Aussi, nous espérons que ces quelques réflexions sur la vie de Joseph vous aideront à mieux comprendre les voies de l'Éternel et à mieux réagir dans les moments difficiles. Mais passons à présent à notre méditation biblique.
Nous allons réfléchir aux paroles de Jésus prononcées lors de sa conversation avec un homme nommé Nicodème. Écoutons dans un premier temps l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 3 à 8.
« Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, « Il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. » Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit.
Jean-Marc est de retour parmi nous. Il nous accompagne tout au long de cette série. Bonjour.
Bonjour Yann. Bonjour à tous.
Nous avons vu ces dernières émissions que Jésus compare l'œuvre de l'Esprit de Dieu à une essence. Et à présent, nous remarquons qu'il la compare aussi au vent qui souffle. Que pouvons-nous en apprendre?
J'y vois deux leçons importantes. D'abord, Jésus dit « Le vent souffle où il veut ». Le vent est un élément imprévisible, impossible à maîtriser. Or, il en est de même avec l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons ni le dompter, ni le diriger. Et nous devons le laisser agir selon ses desseins dans le cœur des hommes et femmes qu'il choisit. Nul ne peut commander ni maîtriser l'Esprit de Dieu. Et nous ne pouvons lui imposer notre volonté, nous ne pouvons rien lui imposer. C'est selon ses propres desseins qu'il agit. Et voici la deuxième leçon. Le vent est bien invisible, mais nous savons qu'il est réellement présent. À ce propos, Jésus évoque le bruissement causé par le vent, son souffle lors d'une tempête déchaînée, le tintement de clochettes à son passage, le bruit d'une porte qui claque, etc. De même, nous pouvons observer des feuilles s'envoler sous l'effet du vent. Par ailleurs, l'homme utilise la puissance du vent pour générer de l'électricité à partir de moulins à vent. Il en est de même avec l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons le voir, mais nous savons qu'il est présent en le voyant à l'œuvre dans la vie de ceux qu'il transforme, dans la vie de ceux qui passent par la nouvelle naissance.
Et quel changement pouvons-nous remarquer en celui ou celle en qui l'Esprit est à l'œuvre?
Voici une liste non exhaustive. Celui qui reçoit l'Esprit de Dieu se met à comprendre l'Évangile et il a soif de connaître le Seigneur. Il aime lire sa parole et désire la mettre en pratique. Il veut l'appliquer dans sa vie. Il laisse le Seigneur Jésus régner dans sa vie et il cherche à lui ressembler en portant le fruit de l'Esprit.
Rappelez-nous ce qu'est le fruit de l'Esprit.
Oui, l'apôtre Paul en Galates chapitre 5 versets 22 et 23 déclare « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. »
Donc ces qualités que Paul énumère doivent se voir en celui qui prétend être passé par la nouvelle naissance.
En effet, parfois, l'Esprit agit en douceur et ces changements se produisent petit à petit. Pour d'autres, la transformation est plus radicale et rapide. Mais là où l'Esprit est à l'œuvre, il doit obligatoirement y avoir des changements à la gloire de Dieu produits dans la vie de celui ou celle qu'il transforme.
Merci Jean-Marc de nous avoir ainsi éclairé sur l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Si vous souhaitez approfondir votre connaissance de la Bible, nous vous donnons rendez-vous dès notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui.
En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.